Bonjour Pascal, avant de commencer le Côte d'Azur, vous avez deux questions. La première, c'était, vous avez fait, l'ENI a été évoqué, donc elle a enchaîné cette semaine,
ouais.
Pour les aspects de l'électromagnétique pour les acteurs en ligne. Soit c'est vrai ou pas, je ne suis pas scientifique. Mais un peu étonné, ce qui est évoqué, c'est que la diffusion massive au niveau des ampères du compteur, semble-t-il, se fait. Sans études sanitaires préalables, ce qui amène à démonter des oppositions qui sont en lien direct avec la thématique des dates de cette année. Donc, je voulais savoir si c'était vrai, si on n'avait pas gonflé le sujet. Comment vous aviez abordé cette question de la responsabilité sociale du site technologique, c'était la première question. La deuxième question, c'est que vous avez évoqué rapidement les problématiques de stockage d'énergie. Il y a un acteur américain qui montre très fort là-dessus, qui a un business plan très, très étudié entre véhicules électriques et domiciles, qui s'appelle Tesla. Vous avez évoqué les problématiques de data. ERDF aujourd'hui, comment il gère la question d'accompagner un écosystème d'innovation, d'entreprise, de boîte, sur ces sujets-là, de manière à rester un acteur de référence au milieu de toutes ces évolutions.
On va prendre d'autres interventions.
Oui, alors, Dominique Renaudet, SFED. La question que j'avais est un peu similaire à la dernière de Wilfried. Donc effectivement, on voit des acteurs apparaître à la fois sur la partie smart grid, hein, sur la partie réseau, le stockage de l'énergie, la gestion des passements. Il y a tout un tas d'acteurs économiques, hein, qui se placent sur le marché. Il y en a d'autres qui se placent sur le marché de la domotique. Google a également beaucoup investi dans la domotique en rachetant une boîte qui s'appelle Nest. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Ma question, c'est comment du coup ERDF se positionne par rapport à ces acteurs-là, comment se fait le dialogue et comment ça vient perturber ou non le modèle économique de la boîte de ERDF.
Pardon. Sur la question des réseaux électriques intelligents, il y a un appel à projet qui est en cours, là, avec deux, trois régions qui ont répondu, si je ne me trompe pas, la Bretagne, PACA et le Nord. Et je ne sais pas si la désignation va être très démocratique dans le choix de la région.
Alors, je précise que tu es en PACA.
Oui, c'est pour Serge Bonnaret, lui-même PACA.
Oui, pardon.
Enfin, peut-être juste une question.
Oui,
si je me permets. Benoît Balincourt, Citélum, vous avez évoqué la difficulté de stocker l'énergie et en même temps un objectif de 7 millions de points de charge à horizon d'ici 15 ans. On sait qu'aujourd'hui la technologie lithium-ion et le lithium est un produit fini, hein, qui est produit essentiellement sous les déserts de Sahel d'Amérique du Sud, en Bolivie. Et comment on peut appréhender à l'avenir les millions de véhicules électriques qui demain devront être équipés de ce type de technologie. Est-ce que c'est un sujet que vous avez déjà appréhendé?
On peut prendre une dernière question.
Pardon. Oui, juste pour demander sur l'ERDF et l'Europe, s'il y a un réseau européen.
C'est
le positionnement au niveau européen.
Ah, c'est juste ça, c'est tout.
Ok.
Alors,
peut-être d'abord sur la question des ondes. Vous imaginez que lancer 35 millions de compteurs qui ne sont pas vendus, dont la pose est obligatoire, on a l'obligation, nous, d'abord. C'est la loi de la transition énergétique, hein, ce n'est pas juste un choix d'entreprise, qui vont équiper l'ensemble des foyers d'ici 2021. On l'a fait avec des vérifications, des précautions sur les aspects sanitaires, sur les aspects de sécurité des données, de cryptage des données, sur les aspects de hackage, etc., qui sont très, très, très en deçà. Des normes européennes. Donc on est vraiment là-dessus irréprochable, inattaquable sur cette question-là. Oui, alors il y a un certain nombre
de... Ce qui vous empêche pas d'être attaqué.
Non, mais attendez, mais c'est un sujet sensible, hein, et c'est un sujet qu'on ne prend pas à la légère. Il se trouve que, mais, quand je vous ai dit ça, c'est une technologie CPL, c'est-à-dire que vous avez un signal qui, une fois par nuit, est transmis, donc il n'y a pas d'onde. Oui, mais ce n'est pas ce qu'un certain nombre de gens ont envie d'entendre, et ce n'est pas ce que quelques personnes écrivent et inondent le réseau de mettre sur cette question-là. Alors pourquoi, après, cette question-là, elle trouve un écho chez, dans des communes rurales, chez des électrosensibles, chez des gens qui, assez vite, partagent une anxiété? Ça, c'est une question intéressante. C'est une question qu'on ne balaye pas, c'est une question qu'on traite extrêmement sérieusement, et partout où on peut aller expliquer ce que je vous explique, partout où on peut aller dire, attendez, nous, on met à votre disposition un laboratoire qui n'est pas un laboratoire RDF, enfin, il y en a plusieurs, et vous verrez, et on viendra mesurer chez vous. Aujourd'hui, il n'y a même pas d'instrument qui existe permettant de mesurer les ondes, le signal émis, tellement il est faible. Tellement il est faible. Quand vous allez expliquer ça, on va dire, oui, mais RDF, vous êtes partial, etc. Donc, oui, cette question, c'est une question difficile, c'est une question dont on voit que ici et là, on ne va pas non plus en grossir l'importance, elle peut trouver un écho, elle est animée par des gens dont j'ignore les intentions, mais peu importe, c'est pas la question, on la traite sérieusement, mais en tout cas sur le plan, je dirais, technique, sur le plan scientifique, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet, je le dis, je le redis, et je peux vous dire qu'on le dit, on le redit à tous ceux qui nous invitent pour le dire, et à tous ceux chez qui on s'invite, parce que quand les gens sont inquiets, ils ont besoin de réponses. Et beaucoup des maires auprès de qui on s'exprime, quand on leur a expliqué que c'était courant porteur en ligne, qu'on utilisait les fils électriques pour faire passer effectivement le signal qui va permettre d'envoyer des informations, bon, oui, ok, oui, ben, y a pas de sujet, donc où est le sujet? Voilà. Donc, intéressant à observer, intéressant à suivre. Sociologiquement, je pense que ça révèle quelque chose, hein. On peut en parler. Ce n'est pas neutre que des territoires aujourd'hui, certains territoires se mobilisent sur le thème le compteur cancérigène de RDF. Et je peux vous dire que des choses qui sont écrites là-dessus, mais c'est ahurissant, ahurissant. Bon, c'est à gérer avec beaucoup de sérieux. On le fait, c'est parfois compliqué. Il y a des réunions publiques un peu houleuses. Honnêtement, si on pense qu'un compteur communicant aujourd'hui, finalement, c'est quand même moins intéressant que le bon vieux compteur bleu en 2015 ou en 2016, je pense que c'est vraiment... il ne faut pas parler de transition énergétique. Il ne faut pas parler d'énergie renouvelable. Hein. Mais bon, ça c'est un autre débat et je ne vais pas me laisser entraîner, mais c'est un débat intéressant.
Juste
oui.
une incidence, on le verra peut-être en visitant le bureau, mais... Ça illustre un peu ce qui a été dit ce matin sur l'inversion de valeur sur les infrastructures. Le compteur bleu, en son temps, a été accueilli de manière plutôt très enthousiaste par l'opinion publique, comme un signe de modernité, de modernisation, etc. Et son installation a soulevé beaucoup moins de problèmes, de contestations que l'INPI. Et c'est pas lié à la qualité de l'un ou de l'autre, c'est lié aussi à des formes d'inversion de valeur. Je crois qu'on l'a dit ce matin sur ce type d'instrument représentant la modernité. Enfin, inversion, évolution d'un système de valeur.
Et paradoxe, c'est que ce compteur bleu aujourd'hui, il est totalement décalé par rapport aux exigences qui sont celles de l'information, de la donnée, de l'évolution des comportements, de l'accès de chacun à une information normale sur ce qu'il va payer sur sa facture. Le compteur bleu ne permet pas tout ça. Il y a quelqu'un qui me disait l'autre jour, moi j'aime bien le compteur bleu quand même parce qu'il y a la roue qui tourne et puis que je vois quand même. Oui, ok, bon, bah, on va garder la roue et puis on va faire le bleu. Non, mais voilà, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. C'est bien parlementaire, donc oui, on va mettre une roue. Non, mais je vois bien quand je branche ça, la roue s'accélère, donc voilà. Et puis ça fait une présence. Pardon d'être. ERDF dans les écosystèmes, on pourra en parler aussi après. Hein. Nous, on est en accompagnement et on pourrait parler longuement d'une expérimentation qui est menée à Easy Green, hein, pas très loin d'ici. La question, c'est jusqu'à quel point certains considèrent qu'on peut se passer complètement du réseau de distribution. Et si cette idée, elle est... Elle structure un projet, c'est une idée qui n'est pas pertinente, parce que quelle que soit la façon dont on organise Alors, ça peut être un réseau fermé, un centre commercial, le rôle du distributeur, le rôle de réassurance, le principe de la péréquation, il est incontournable. Et donc nous, on essaye avec, avec Bouygues, avec Schneider, avec ici, de voir comment on peut ensemble piloter l'intermittence, l'utilisation d'un compteur Linky, par exemple, qui va permettre à certains moments de piloter et d'intégrer les énergies renouvelables, de moduler la puissance sur le réseau quand l'injection, effectivement, des énergies renouvelables, elle est supérieure à la capacité du réseau. Donc ce qu'on souhaite, nous, c'est proposer aux différents acteurs de ces petits écosystèmes qui sont en train de se développer pour voir comment, avec le réseau de distribution, mais avec d'autres sources, effectivement, de production, on peut essayer d'optimiser un système sans en faire un îlot, je dirais, qui, de toute façon, ne peut pas se passer. Il n'y a pas d'autarcie. Ce n'est pas une position de principe. Hein. L'autarcie, elle existe pour des chalets en montagne, elle existe pour des phares, mais quand on est sur une zone commerciale, et nous dire, attendez, vous, vous restez à l'extérieur, et puis le jour où il y a un problème, on vous appellera, hein, s'il y a une tempête, etc. Mais le reste, on en fait notre affaire. D'abord, je pense que ça interroge la péréquation, parce que ça veut dire qu'il y a des zones qui se disent, attendez, nous, on sort de la péréquation, on sort du turf, parce qu'on s'arrange entre nous. Donc, en soi, c'est une question de principe. Et sur le plan technique, ça ne peut pas résister. Et donc on trouve beaucoup plus pertinent, comme on le fait à IC Grid, de travailler avec tous les opérateurs pour voir comment est-ce qu'effectivement on peut utiliser le réseau, les énergies intermittentes, et voilà. Donc,
et il y a quand même des acteurs qui arrivent avec ce type de promesses, qui arrivent sur le marché.
Il y a des acteurs qui arrivent avec ce type de promesses, notamment dans le Sud. Bon. Alors il y a une directive actuellement qui est transcrite sur la question de l'autoconsommation. Et nous, les arguments qu'on essaie de faire valoir dans cette discussion sur l'autoconsommation, c'est qu'on ne peut pas déturpiser une partie de l'utilisation du réseau parce que, au motif théorique, qu'ils n'utiliseraient jamais le réseau extérieur. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas possible. Voilà. Donc, par rapport à ça. Alors, ça rebondit sur la question du stockage. Stockage des batteries, oui, si demain il y a X millions de véhicules électriques qui pourront la nuit, injecter sur le réseau une électricité qui n'aura pas été utilisée, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand je reviendrai vous parler de l'organisation de la distribution, je pense qu'on en parlera dans des thèmes différents. Aujourd'hui, on en est quand même loin. Et Tesla, très bien, hein, il a une promesse client qui est extrêmement ambitieuse. Moi, techniquement, enfin, je ne suis pas capable de donner un avis pertinent, je ne me risquerai pas là-dessus, hein. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la situation. La projection, oui, elle peut être celle-là, mais à un horizon que j'ignore complètement. Économiquement, aujourd'hui, le stockage n'est pas rentable. On a, nous, des expérimentations à travers des démonstrateurs, je ne l'ai pas évoqué, hein, mais il y a un slide sur... On a une quinzaine de démonstrateurs, notamment à Nice, où on essaye de voir comment, en stockant l'électricité, on peut, à un moment donné, faire en sorte que... un quartier qui serait complètement coupé du réseau de distribution parce qu'il y a eu parce que le réseau est tombé en carafe, comment est-ce que ce qui a été stocké peut être utilisé pour alimenter l'intégralité de ce quartier. Donc on travaille sur des solutions, on travaille en zone rurale avec Vantéa qui est aussi en Vendée, hein, sur ces questions de stockage et de réutilisation d'électricité. On reste à une phase expérimentale et pas à une phase de déploiement industriel. Je ne peux pas vous dire à quel rythme, effectivement, ces progrès vont se faire, mais il est clair qu'il faut expérimenter, et c'est ce qu'on fait très activement. Sur Bretagne, PACA, REI, on suit ça avec beaucoup d'attention aussi.
Voilà. Donc, décision rapide, je crois.
Je crois qu'elle est prise, d'ailleurs. Ah. Mais on suit ça avec l'attention que vous imaginez. Et puis sur l'Europe, alors, on n'est pas... on n'a pas d'activité. Enfin, il y a la question ERDF à l'extérieur. On n'a pas, honnêtement, on n'a pas d'activité extrêmement forte à l'extérieur. Par contre, la façon dont des réseaux de distribution pourraient se connecter, il y a aujourd'hui un travail qui est fait entre la France et l'Espagne sur ces questions-là. Michel Derrevé, qui est secrétaire général de ERDF, pourrait vous en parler plus longuement que moi. Ça reste assez embryonnaire au moment où je vous parle, ça c'est tout à fait clair. Voilà. Et puis... puis quand on m'indique qu'il faut que je branche l'ordinateur ou trouver une autre source d'alimentation, je pense que ça signe la fin de cette matinée. En tout cas, non, mais voilà. Merci en tout cas de votre attention, et puis